forêt, nos différences.
In 500 meters, go straight and then go straight.
Entre les pages. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Entre les pages, l'émission qui parle sur Radio G du monde des livres en Anjou. Émission un peu particulière aujourd'hui, 5 juillet 2023, puisque, faute d'invité, j'ai choisi de rediffuser une émission passée. Mais pas n'importe quelle émission. C'était le 17 février 2021, il faisait froid, la Covid faisait encore rage, et on vivait au rythme des confinements et des vaccinations. Cela semble un autre temps, une autre époque. Étrangement, cette émission n'a pas pris une ride. Pour contourner l'éventuel anachronisme, il suffit de remplacer les références à la pandémie par celles relatives au changement climatique et vous verrez, cela fonctionne parfaitement. Mais retournons le 17 février 2021. L'émission commençait comme ça. Une question me trouble depuis très longtemps. Qu'est-ce qui fait que l'on a toujours du plaisir dans cette activité si particulière qu'est la lecture ? Depuis des dizaines d'années, je l'exerce avec une joie toujours renouvelée. Je l'avoue, j'ai détesté une somme considérable de livres. J'en ai commencé certains dont je n'ai pas dépassé les 50, voire les 10 premières pages, souvent je crois parce que l'auteur n'a pas su me concerner, souvent aussi parce que c'était vraiment très mauvais. Mais au cours de ces dizaines d'années aussi, j'ai toujours rencontré des livres qui montent enthousiasme. Mais autrement dit, mon expérience de la lecture n'a pas fabriqué de l'habitude qui, on le sait, est à l'origine de la baisse du plaisir. L'habitude nous joue des tours, chantait Maxime Le Forestier en 1972 dans sa chanson « La rouille ». Il y a donc quelque chose d'autre qui se joue dans l'écriture, qui reste à mes yeux un mystère. C'est aujourd'hui peut-être l'occasion d'en éclaircir une partie. Je reçois Marc Nagels, le responsable des éditions Terre du Couchant, sise à Chazé-sur-Argos, vous savez, pas très loin de Chalin-la-Poterie, Angrie ou Genet. La conversation avec lui est éclairante, j'irais jusqu'à dire réconfortante. Sa maison d'édition, il l'a créée en 2017, en lançant un appel à projet sur une plateforme de financement participatif, avec pour objectif de réunir la faramineuse somme de 1300 euros. Objectif modeste, personnage modeste, mais travail considérable. Si sa maison n'a publié que 7 livres en 3 ans, il n'y a pas une fausse note dans son catalogue. Bonjour Marc Nagels.
Bonjour.
Et bienvenue à Radio G dans nos studios. Merci d'avoir fait la route. Vous avez pris des risques inconsidérés puisque vous avez roulé dans le froid et le verglas.
Oui.
Ça faisait longtemps, très longtemps que je voulais vous recevoir parce que votre travail m'interpelle et je dirais même plutôt qu'il m'intéresse. Vous êtes responsable des éditions Terre du Couchant. Dites-moi un peu, quand avez-vous décidé de créer cette maison d'édition ?
C'est une idée assez ancienne. En fait, j'ai travaillé une vingtaine d'années dans l'édition. J'ai même commencé par le journalisme auparavant, mais j'ai travaillé une vingtaine d'années aux éditions et mon passage le plus significatif, il s'est fait aux éditions Siloé, qui était une maison d'édition lavalloise et nantaise, et qui s'attachait aux questions régionales, à travers des beaux livres, à travers la littérature, à travers l'histoire locale, à travers la jeunesse, à travers toute une série de genres. Et c'était une expérience assez formidable, je dois dire. Et lorsque cette expérience a pris fin, parce que les maisons d'édition disparaissent, n'est-ce pas ? C'est la triste réalité. Mais j'avais des auteurs de romans, notamment, qui me disait mais Marc, on a beaucoup aimé travailler ensemble. Ce serait formidable si ça pouvait durer ou si ça pouvait continuer d'une manière ou d'une autre, quoi. Et ben j'avais été effectivement assez touché par ça. Et c'est comme ça qu'est venue finalement la création des Terres du Couchant. Bon, je travaille toujours pour l'édition. Je travaille pour des, je fais des prestations pour les maisons d'édition, mais j'avais besoin de d'être raccordé encore au travail d'éditeur proprement dit, quitte à le faire bénévolement, quitte à le faire au sein d'une structure associative comme c'est le cas, et puis de retrouver par ce biais-là finalement des auteurs qui m'ont suivi, et puis d'autres surtout que j'ai eu le bonheur de découvrir à travers une maison d'édition qui donc publie modérément, hein, un texte ou deux par an, peut-être trois parfois, et qui, somme toute, n'existe pas depuis si longtemps que ça, puisqu'on a été créé en 2017.
Déjà, vous avez répondu à plein de questions qui étaient, mais vous inquiétez pas, j'ai un stock. Plein de questions. Déjà, vous nous avez dit donner la date de naissance de votre maison d'édition, ce qui vous a un peu motivé. On a déjà un éclairage, parce qu'une maison d'édition qui publie trois livres par an, nécessairement, on est sûr qu'elle n'alimente pas du tout un poste salarié, donc voilà, ouais, ça clair. Aussi c'est vu. Ouais. Et donc on a découvert aussi que vous avez aussi un autre métier et que votre activité, vous l'exercez de manière bénévole, militante. Et on voit d'où est venu, effectivement, je me souviens bien, moi, à l'époque des éditions Siloé, j'habitais Laval à l'époque, et je me souviens bien de cette maison d'édition. Je dois avoir un ou deux livres chez moi dans ma bibliothèque encore, avec, je revois même le logo.
D'accord.
Votre maison d'édition, vous avez fait le choix d'un nom qui n'est pas neutre, loin de là, surtout quand on est au bord de la Loire. Terre de Couchant, ça renvoie à l'un des livres de Julien Gracq, qui s'appelle Les Terres de Couchant. La filiation, elle se situe où?
Écoutez, je suis un lecteur de Julien Gracq depuis toujours, c'est peut-être un peu exagéré, mais depuis bien des années, depuis mes années étudiantes, ou mes années de lycée même. Et c'est un auteur pour lequel j'ai vraiment la plus vive admiration. Ce qui s'est passé au moment de la création de cette maison d'édition, c'est que venait de sortir ce texte de Julien Gracq, là, ce texte qui s'appelle Les Terres du Couchant, mais qui est un texte posthume et dans lequel on retrouve une nouvelle qui m'avait vraiment marqué, quoi. Pour moi, c'était l'un des plus beaux textes de Julien Gracq. Enfin, c'est difficile de les classer, évidemment, mais c'était cette nouvelle qui s'appelle La Route. Et en fait, La Route, c'était une nouvelle publiée parce que, à l'époque, Julien Gracq n'avait pas terminé ce roman des Terres du Couchant. Et il jugeait qu'il ne pourrait pas le terminer, il en avait extrait cette nouvelle. Lorsque j'ai découvert ce livre, finalement posthume, lorsque je l'ai lu, j'ai pu retrouver cette nouvelle qui m'avait tant émerveillé au sein de du texte qu'il apportait, quoi. C'était comme une perle dans une gangue, quoi. On retrouvait le texte à l'état natif. Ça permettait de restituer vraiment, j'ai l'impression, toute la poésie du texte, quoi. Alors ça, c'est une première chose. Il y a la filiation gracquienne, évidemment, mais on est positionné dans l'Ouest et sans vouloir nécessairement trop accentuer l'ancrage régional. Moi, je trouvais très intéressant de positionner cette maison d'édition là sur son balcon d'Ouest, vers la lumière. Alors la lumière mourante, c'est pas quelque chose de négatif. Ça nous ramène au soir, et le soir, c'est le temps de la lecture, comme on l'écrit sur quelque part sur notre site internet. Alors les Terres du Couchant, ce sont des terres littéraires que l'on parcourt, que l'on retrouve le soir, au moment sublime où on peut enfin rouvrir un livre.
Donc, filiation avec Julien Gracq par toutes ces entrées-là, avec le climat de Julien Gracq. Il y a qui, comme autres auteurs, un peu, qui vous structurent?
La liste serait sans doute longue.
Allez, trois noms suffiront. Ouais.
Alors, je vais parler de... Enfin, je vais citer plutôt Giono. Ouais, Giono. Et puis, pour pourquoi pas citer un poète, même si Les Terres du Couchant ne publie pas spécialement de poésie, ou du moins pas encore. J'aurais envie de... Je penserai à Saint John Perse, pour aussi le côté un petit peu hiératique de l'écriture. Ce sont des noms qui m'ont toujours fait vibrer. Ou alors des auteurs d'aujourd'hui. Je suis un lecteur de Philippe Le Guillou aussi, dont j'aime beaucoup les romans.
J'imagine que quand on prend un peu cette décision de créer une maison d'édition, quand on franchit le pas, il y a quelque chose qui est de l'ordre du pari, presque du défi, voire de rivaliser aussi avec certaines maisons d'édition. Est-ce qu'il y a un esprit de compétition, et compétition au sens noble, bien entendu, dans votre démarche ?
Je vais vous décevoir, non.
Je
n'ai pas vraiment l'impression.
Je ne suis...
pas de compétition. Le sens noble de la compétition, peut-être que je le cerne mal. Non. La première chose que j'ai faite, l'une des premières choses que j'ai faites quand j'ai voulu... créer cette maison-là, c'est d'aller voir des anciennes connaissances du monde de l'édition, échanger avec eux. Alors ça va, tu vois, j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que t'en penses? Et toi qui as monté ta structure, comment as-tu fait? Bon, partage d'expérience.
La fabrication du projet par les pairs.
Voilà, c'est ça, exactement. Et je me sens pas du tout en compétition avec aucune maison d'édition.
Quand je parle de compétition, on va pas s'attarder dessus, mais peu importe. Ouais. Quand je parle de compétition, ce que je veux dire par là, c'est que si on décide de créer quelque chose, c'est parce qu'il nous semble que cela correspond à un manque, qu'il y a un trou quelque part, et que ce trou, on a envie qu'il soit fait de quelque chose, enfin qu'il y ait quelque chose. Et c'est presque de dire aux autres, peut-être que vous n'avez pas été vigilant et que vous n'avez pas vu qu'il y avait quelque chose là qui manquait, et moi je me propose d'être là.
Oui, votre question touche vraiment de très près à la ligne éditoriale des éditions, puisque le premier souffle qu'on a voulu leur donner, alors je dis nous parce que c'est quand même une association, n'est-ce pas, je ne suis pas tout seul non plus, c'était de se dire il y a des textes qui n'ont pas leur chance, et qu'on aurait pourtant envie de lire, et qu'on aurait pourtant envie de porter auprès des lecteurs. Des textes qui sont peut-être un petit peu plus singuliers que d'autres, des textes qui n'ont peut-être pas tout à fait le format adapté au livre, pas assez long, par exemple. Et donc ça, on a voulu être vigilants sur ces textes-là, pour leur donner leur chance. Et puis c'est aussi des premiers textes d'auteurs, des premiers romans, pourquoi pas, des premiers récits. Ça, c'était aussi dans l'ADN premier, dans l'ADN de la maison d'édition qui se constituait. La ligne éditoriale s'est aussi élargie, s'est aussi un petit peu épaissie, et effectivement, on peut en venir à solliciter des auteurs, on adopte une démarche qui est peut-être un petit peu plus classique maintenant, à la différence de ce que j'appelais le premier souffle de la maison d'édition, mais qu'on ne renie pas du tout.
Restons encore dans ce début de votre aventure. Alors mettons-nous au moment où, ça y est, la décision est prise, et puis il faut passer à l'action. Ça s'est passé comment la première fois, la première rencontre avec le premier manuscrit? C'était qui déjà?
Alors le premier manuscrit, en fait, est pratiquement responsable de la naissance de la maison d'édition, parce que il y avait cette idée dont je parlais tout à l'heure, insufflée par les auteurs eux-mêmes, de les anciens auteurs que je côtoyais, de recréer quelque chose. Et en fait, un jour, dans un salon, il manquait peut-être l'élément déclencheur, comme dans toutes les bonnes histoires. Un jour, dans un salon, j'ai rencontré Marie-Hélène Bahin, que je n'avais pas vue, qui est auteur, n'est-ce pas, que je n'avais pas vue depuis quelques années.
Dont nous allons reparler tout à l'heure.
Voilà. Et on a échangé, puis elle me dit oui, Marc, tu sais, j'ai un texte qui est un petit peu singulier, justement, qui s'appelle Déas. C'est une histoire un petit peu médiévale. Les éditeurs ne s'y intéressent pas tellement. En échangeant, j'ai compris pour quelques petites raisons que ce texte allait me toucher. Je l'ai senti tout de suite. Et donc, elle me l'a confié. Et je me suis dit, c'est le moment, voilà, ça c'est un texte qui me plaît beaucoup. J'avais aussi quelques autres textes un petit peu dans les tiroirs d'auteurs que j'aime bien, et à partir de là, on s'est mis à construire les choses, quoi.
Donc ça, c'est en fait le concours de circonstances, le hasard, aussi simplement que ça. Ça y est, la machine s'est mise en route. Pour connaître, moi, un petit peu la jungle de l'édition, j'imagine donc l'éditeur qui est submergé par les propositions de manuscrits. Est-ce que c'est votre cas, vous ? Est-ce qu'on vous sollicite en permanence ?
Alors, pas en permanence pour plusieurs raisons. L'une, parce qu'on est jeune encore, et l'autre, parce que finalement, on est assez discret aussi. Et je trouve que c'est assez intéressant de rester discret. On n'a pas besoin de surcommuniquer à travers tous les réseaux sociaux existants. Donc, les auteurs qui s'intéressent à nous, qui nous sollicitent pour l'envoi d'un manuscrit, en général, soit ils nous ont lu, soit ils nous ont, on leur a parlé de nous, ou alors ils ont fait un gros travail de recherche qui...
Oui, il faut faire un travail de recherche, hein, indéniablement. Hein.
Qui fait que, bon, voilà... On reçoit des manuscrits, hein, c'est sûr. J'en reçois pas mal, mais bon, ça va.
Voilà, vous nous avez expliqué votre transition et votre passage de l'autre côté. Qu'est-ce qui vous fait décider d'éditer un livre?
C'est très simple, c'est le coup de cœur. Il faut qu'il se passe quelque chose à la lecture. C'est la seule raison qui nous mobilise. Alors, il faut, évidemment, on est plusieurs. Alors, il faut qu'on puisse tomber d'accord. On a besoin d'unanimité pour faire les choses. Mais c'est pas tellement
ça,
difficile.
C'est comme en Europe, ça. Il faut être c'est l'unanimité qui prime.
Voilà, c'est ça. Sachant que, y a des textes que définitivement, auxquels je suis définitivement fermé. C'est ma nature. Il y a des choses que des choses très bonnes auxquelles je n'ai malheureusement pas accès, humble lecteur que je suis. Mais il y a des choses qui savent me toucher. J'aime les écritures fortes, les écritures sincères. J'aime le texte qui s'écrit, pas qui s'écoute écrire, mais qui s'écrit. Toutes ces choses-là. Et puis évidemment, on attend d'un roman qu'il ait une construction qui soit solide, quoi.
Bon, moi, j'ai lu plusieurs des livres que vous avez publiés. Et effectivement, on sent un courant. Enfin, votre cœur bat dans un sens, pour reprendre la métaphore que vous avez utilisée. Votre cœur bat dans un sens. Donc, écriture forte, sincérité, intégrité. Moi, je rajouterais peut-être un terme, simplicité. C'est ce qui me frappe beaucoup, moi, dans ce que vous publiez. En fait, il y a pas trop d'adjectifs, quoi, en fait.
Un petit peu quand même.
Oui, mais
je voudrais déclarer solennellement que les adjectifs, les adverbes ne me font pas peur, contrairement à bien des éditeurs, des lecteurs. Mais oui, peut-être que les écritures qu'on a mis en avant jusqu'ici sont un peu simples, dépouillées, en tout cas pures, peut-être. Oui. C'est possible. Oui. Est-ce que c'est ça qui me touche, peut-être, effectivement? Est-ce que c'est un élément? Oui. Ça n'appartient pas à la ligne éditoriale. Oui. Si on veut.
Juste un petit point là, parce que en vous interviewant, j'ai tendance et je commets l'erreur de personnaliser. Oui. Mais déjà dans les premières phrases que vous avez échangées là, les premières phrases, vous avez fait référence à nous, une association. Un groupe, unanimité. Vous êtes combien de personnes impliquées dans cette aventure ?
C'est nébuleux. Mais en fait, c'est une histoire d'amis. Et d'anciens professionnels de l'édition, d'ailleurs. Ou toujours professionnels de l'édition. Nous sommes trois, nous sommes quatre, oui, à peu près. S'ajoutent des amis, des lecteurs, des gens avec qui on a des relations littéraires. Les auteurs font partie de la maison aussi.
Est-ce qu'il arrive que vous reteniez un texte ? Vous avez un manuscrit qui vous est arrivé, vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose, et est-ce que ça arrive que ça aille pas au bout ? Que finalement, ça ne pourra pas se réaliser.
Ça peut arriver, c'est arrivé peut-être, tout simplement parce qu'on n'était pas tous d'accord sur l'intérêt de le publier au sein de notre maison d'édition. C'est arrivé qu'on renonce à une publication, mais quand on est quand même déjà dans le partage de lecture. Quand on est dans l'échange, souvent, c'est qu'il y a quand même des choses qui sont en train de se transformer, mm-hmm. Qu'on va vers l'édition. Mm-hmm. Mais ça peut arriver, effectivement.
Mm-hmm. Moi, j'ai le sentiment, toujours à partir de moi, ce que j'ai lu, donc, enfin, c'est faux d'ailleurs, parce que c'est à partir de plus que ce que j'ai lu. Ça s'inscrit aussi dans l'interview que j'ai faite de Sonia Schubert mm-hmm. pour Nadia Poussière d'Étoiles. J'ai le sentiment, moi, que entre la réception du manuscrit et la publication, que vous faites un travail assez important avec l'auteur. Toi, d'accompagnement, ouais. de relecture, de...
Bien sûr, bien sûr. Je pense que c'est un travail qui est indispensable. Et c'est ce qui fait toute la différence entre le travail d'une maison d'édition, le catalogue d'une maison d'édition, et puis l'auto-édition, des choses comme ça. Il doit y avoir une relation entre l'auteur et l'éditeur. L'auteur est un petit peu myope sur son texte. Il le voit de trop près, il oublie de regarder certaines choses, et l'éditeur qui lui ne voit que de loin mais pas d'assez près lui permet de prendre un petit peu de recul, de distance, donc l'éditeur est plutôt presbyte, vous voyez, et entre les deux on arrive à trouver un mode de lecture intéressant, ouais. Simplement aider à l'auteur à prendre du recul, voilà la mission de l'éditeur, et puis de lui permettre de rendre son texte permettre à son texte de toucher le lecteur plus facilement.
Mmh. Mais ça s'entendait bien dans les propos de Sonia Schubert, et quand on l'entendait parler, elle n'en parlait pas avec le sentiment d'avoir été dessaisie de quelque chose, de son projet, de son livre qui était extraordinairement beau nécessairement puisque c'était le sien, mais au contraire qu'elle avait saisi la pertinence du travail d'accompagnement que vous avez produit auprès d'elle.
Ça veut dire que j'ai réussi. Ça veut dire que j'ai réussi parce que la mission de l'éditeur, la mienne ou celle de n'importe quel éditeur, c'est surtout pas de donner à l'auteur l'impression qu'il est dessaisi de son texte. Ce serait vraiment malheureux. Au contraire, c'est de lui donner l'impression qu'il le concrétise, qu'on l'aide à le faire naître et à lui donner une forme définitive, celle que le lecteur aura entre les mains.
J'ai marché fâché quittant sur le champ père et mère. J'ai marché bien décidé sans regarder derrière. J'ai marché sous la pluie fine au milieu des alpages. J'ai marché, j'ai parcouru, j'ai couru sous l'orage. J'ai marché à contresens, envers et contre tout. J'ai marché devant l'amour, les deux jambes à mon cou. J'ai marché, je passais mon chemin sur des trésors. J'ai marché de l'or que je ne voyais pas encore. J'ai fait deux fois le tour du monde entier. J'ai marché, j'ai fait cent fois le tour de mon orgueil. J'ai marché, j'ai fait, je crois, le tour de mes mensonges. J'ai marché et j'ai percé la nuit, percé mes songes. Je crois le tour de mes mensonges. J'ai marché et j'ai percé la nuit, percé mes songes. J'ai marché entrevoyant le monde et ses trésors. J'ai marché qui sous mes yeux soudain venait d'éclore. J'ai marché, j'ai marché, j'ai marché, j'ai marché, j'ai marché, j'ai marché, j'ai marché. J'ai marché, j'ai marché sur l'eau, marché sur la lune, marché dans tes yeux, marché au bord, marché au milieu, j'ai marché, j'ai marché. J'ai marché.
écouter un homme qui se fait trop rare, Niobé, en duo avec l'ami Christophe Belleuil. Il chantait « J'ai marché ». Vous écoutez Entre les pages sur Radio G 101.5 et je reprends ma conversation avec Marc Nagels, responsable de la maison d'édition Terre du Couchant, qui décide que le livre est prêt.
L'auteur et l'éditeur ensemble, oui. Dans leur relation, il y a un moment où on se dit, ben voilà, c'est bon, on a enfin ce qu'on voulait, et maintenant on s'attache plus qu'aux choses formelles, à la maquette, à la relecture. On discute plus que de corrections un petit peu futiles, mais enfin tellement nécessaires.
Oui.
On n'est plus du tout dans la réécriture ou dans le.
Moi, toujours dans cette conversation que j'ai eue avec elle, je garde en tête. Alors, moi, j'ai ce livre, Nadji Poussière d'étoiles. D'une part, je l'ai lu, il m'a. Je vais pas dire bouleversé. Il m'a habité. Voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé avec ce livre. J'en ai recommandé la lecture à de nombreuses personnes qui toutes sont sorties un peu, toutes impactées. Et je me suis dit, mais si autant de gens à qui je recommande la lecture de ce livre, me font ce retour-là, il y a donc quelque chose. Voilà, il se passe quelque chose. Enfin, il y a un objet, il y a une matière. Et en l'écoutant parler, j'ai toujours eu le sentiment qu'elle n'avait pas conscience qu'elle avait produit un livre de haute qualité. Quoi. Enfin, il y avait une.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, conscience ou pas, je ne sais pas, mais c'est un si beau livre que dès les premières pages, j'ai su qu'il y avait. On ne peut pas savoir ce qui va se passer ensuite. On ne sait pas. Mais quand même, il y avait une telle beauté dans les premières pages. Je me suis dit que vraisemblablement il allait se passer quelque chose et qu'on allait éditer ce texte-là. L'ambiance des premières pages me rappelait celle du Chant du Monde de Giono. Je trouvais ça m'a tout de suite touché. Bon, on parlait de Giono tout à l'heure, il n'y a peut-être pas de hasard. Hein. Et donc oui, et puis cette écriture, ce souffle poétique qu'elle met dans ses pages avec le support de deux voix différentes, j'ai trouvé ça assez fabuleux.
Ouais. Avec une capacité à parler d'un ailleurs qu'elle n'a pas vécu, qu'elle ne connaît
bien
pas,
sûr,
donc,
ouais.
Avec une véritable capacité de romancière, c'est-à-dire de nous raconter quelque chose, l'aventure que suit un des protagonistes, on est saisi, on vit avec, quoi, on marche dans la caillasse et dans le désert. Pour moi, ça a été une lecture très très forte.
D'accord. Ouais. La fiction permet d'accéder à la réalité, d'après ce que la description que vous faites de cette expérience de lecture.
Et puis. On parlait de Marie-Hélène Balin tout à l'heure. C'est votre dernière publication officielle. Ça s'appelle Sous le regard des grands frênes.
Alors c'est ça, oui. Le deuxième publié au Terre du Couchant s'intitule Sous le regard des grands frênes. Et c'est le dernier. Il est sorti en décembre. Et c'est donc la première fois qu'on publie un deuxième titre dans cette maison d'édition, signe qu'on commence à prendre un peu d'âge. Mais Roland Goeller, qui a publié en même temps, on avait publié deux premiers ouvrages pour commencer, donc Des As de Marie-Hélène Bain et Puis-je m'asseoir de Roland Goeller. On retrouvera Roland Goeller cette année à l'automne vraisemblablement avec aussi un nouveau titre.
Le titre du livre, c'est Sous le regard des grands frênes. Qui est Marie-Hélène Balin? C'est qui cette personne?
Marie-Hélène Balin, alors c'est une personne qui vit en région nantaise, qui publie depuis des années chez Diabaz, chez Lamourier, à L'œil ébloui aussi. Et elle a fondé, elle a ce parcours d'écrivain régulier. Hein, elle publie régulièrement des textes qui ont beaucoup de force, des textes assez courts en général. Elle a aussi ceci de particulier qu'elle a cofondé avec Thierry Baudin-Hulin les éditions d'Escarbille, petite maison d'édition nantaise qui donne toujours, je crois, sa chance à des premiers romans. C'était leur carte. Et puis, avec Thierry Baudin, ils ont cédé les éditions à des jeunes, et puis ils ont continué, chacun de leur côté, son activité d'auteur, et puis l'autre, c'est Thierry Baudin a créé les éditions de L'Œil ébloui à Nantes.
Ce texte, alors vous disiez tout à l'heure que il n'y avait pas de forme a priori, pas de volume a priori dans vos publications. On parlait de Nadji, c'est un livre qui fait 250 pages. Sous le regard des grands frères, ça en fait, je crois, 108. Donc c'est vraiment un court texte. On n'est pas loin du conte. Enfin, on est dans quelque chose qui est assez hybride dans le...
Ah oui, du conte avec un N.
Oui.
On est loin du conte.
Oui.
Mais ça c'est l'aspect un petit peu disons qu'on est entre le roman et le récit et ça c'est aussi une marque de fabrique d'auteurs comme Marie-Hélène Bain. Ce qui compte c'est pas la fresque, c'est pas le nombre des personnages, c'est pas la puissance, l'épaisseur des paysages. Ce qui compte c'est l'intériorité de personnages à travers restitué par une voix poétique. On n'est jamais loin de la poésie non plus, hein. C'est un peu transgenre comme littérature. Tout ça.
Oui.
Et donc c'est vrai que souvent ça prend forme au sein de textes courts. Alors c'est plutôt l'auteur qui devrait expliquer des choses comme ça. Mmh. Moi j'extrapole peut-être un peu, mais ça prend plus facilement corps à travers des textes, effectivement des volumes plus minces, mais c'est pas non plus une ligne éditoriale. Il y a un autre texte qu'on a publié qui s'intitule « Les printemps pourtant » d'Yves Fravalo, qui faisait 300 pages et qui était un récit d'évasion de guerre. Mais au-delà de ça, c'est l'écriture d'une écriture, quoi.
Bien sûr que Marie-Hélène Balin serait la personne idéale pour parler de son texte. Bon, elle a, par rapport à l'émission qui, aujourd'hui, l'Anjou n'a pas encore capturé le pays nantais. Donc voilà, il y a des limites territoriales et l'Anjou ne peut pas exercer d'irrédentisme comme ça vers l'ouest. Voilà. Mais son livre est vraiment éblouissant. Enfin, moi, je suis sorti de cette lecture. Des fois, c'est vrai qu'il y a une écriture poétique. Des fois, on se dit, oh non, on va pas dire poésie parce que ça va dissuader les gens. Ils vont se dire, on peut pas dire. Quoi.
Voilà. Qui fait peur,
ouais. Ça fait un peu peur, alors que non, il y a la conjugaison de plusieurs choses. Moi, j'ai eu des émotions un peu identiques. Alors, ça s'oppose complètement. Ouais. Un bouquin comme Le cheval d'orgueil de Pierre-Jacques Azélias, ça m'a replongé. Il y a des séquences de cheminement de Pierre-Jacques Azélias dans des sentiers. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça, et je sais pas pourquoi, c'est comme ça, on fait des connexions avec des bouquins. Il y a peut-être pas de raison objective, mais en tout cas, pour moi, c'était... Enfin, il y a des questions d'ambiance, de climat, de sensation, d'odeur, de terre mouillée. Enfin, bon, voilà, c'est tout ça.
Ouais, c'est ça aussi. Le sujet de ce genre de livre, c'est parfois des évocations aussi simples que celle-ci, quoi. Et ce que permet, en général, de susciter la poésie.
Autre élément important dans Terre du couchant, en tout cas pour moi, qui est essentiel, puisque c'est souvent l'élément déclencheur d'achat chez moi. On ne peut pas ne pas évoquer la charte graphique de Terre du couchant,
oui,
qui est d'une rigueur totale. Voilà. J'allais utiliser de soviétique, mais bon, c'est pas quand même. Alors, parlez-nous de cette charte graphique des éditions Terre du couchant.
La charte graphique.
Enfin, la charte graphique, la présentation de l'objet. Enfin, ouais, voilà, voilà, allez-y, parlez-en.
Eh bien, tout au début, alors quand on crée une maison d'édition comme ça, on cherche à avoir une identité visuelle, forcément. On cherche à donner aux objets qu'on va créer une épaisseur charnelle agréable, et les couvertures doivent se signaler effectivement par des parties pris Et c'est le cas chez nous, avec cette colonne centrale qui est habitée par un graphisme, par un titre sur plusieurs lignes, ce qui peut poser accessoirement des problèmes parfois, parce que les titres n'ont pas toujours plusieurs lignes. Le prochain s'appelle Horn, comme le cap Horn, il n'y a qu'un seul mot, donc entorse à la charte graphique soviétique dont vous parliez, mais on va vivre ça quand même, hein. On va le vivre assez bien. On a essayé de jeter un petit peu la confusion entre la police et les éléments graphiques pour en faire un objet un petit peu comme ça, qui non pas qui saute aux yeux, mais qui appelle un peu.
Moi je l'ai dit, hein, ça fonctionne pour moi. C'est le genre de livre vers lequel je vais, bon mauvais d'ailleurs. Mais vers lequel je vais. Donc il y a à chaque fois une gravure, hein, sous le titre.
Oui.
Hein. Alors ça c'est par curiosité personnelle, la police de caractère qui fait les titres, c'est quoi comme police vous... C'est pas grave. C'est mon défaut. Mais c'est mon défaut. J'ai l'intime conviction qu'une police de caractère raconte beaucoup de choses et que voilà.
En fait, le pire c'est que c'est moi qui l'ai choisi, donc je vais pouvoir vous en donner le nom. Mais et en plus c'est moi qui fais les maquettes évidemment, donc je devrais a fortiori pouvoir vous en donner le nom. Mais bon, il m'échappe pour l'instant.
C'est pas grave.
On l'a choisi. Pour il n'y a pas d'empattement, ce sont des traits fins, tout est gracile, léger. Donc voilà, c'est ce qui nous a plu dans cette police de caractère.
Vous publiez très peu, vous nous avez dit que vous êtes à 2-3 livres peut-être par an. Vous nous avez dit aussi que vous aviez d'autres activités, enfin que vous ne mangiez pas grâce à votre maison d'édition, mais que vous aviez d'autres activités professionnelles qui vous permettaient de manger et donc de développer ce projet tout particulièrement. Ouais. Les livres, vous les tirez à combien d'exemplaires? Le premier tirage, c'est combien à peu près?
500.
500 exemplaires.
Ouais.
Autre question, purement alimentaire, quelle est la nature du contrat que vous avez avec vos autrices ou vos auteurs?
Ce sont des contrats à compte d'éditeur, classiques, qui ouvrent à des droits d'auteur qui sont en fonction des ventes, naturellement.
Ça va mieux des fois en le disant. Ça va mieux en le disant. Parce que je connais nombre d'auteurs en puissance qui rêvent d'être édités et qui cherchent par tous les moyens à être édités, par n'importe quel moyen à être édités, bien évidemment. Ce qui amène à des déceptions sans nom, à plein de niveaux. Donc, des fois, il vaut mieux dire qu'il y a des gens qui ont un métier, qui choisissent de faire un métier, d'avoir une activité dans les règles de l'art, simplement dans les règles de l'art, c'est-à-dire qu'effectivement un auteur, on lui fait un contrat et puis il y a des rétributions qui sont faites telles que le veut la profession, telles que c'est pratiqué dans la profession. Ouais. Là, il y a ce livre-là sous le regard des grands frênes que je recommande vraiment instamment. On ne peut pas ne pas lire ce livre. C'est un livre magnifique, superbe. Donc vraiment, j'en recommande la lecture. Il y a des choses qui se préparent.
Il y a des choses qui se préparent, comme je vous disais, en fin d'année, nous retrouverons non seulement Roland Goeller, qui publiait donc l'un des premiers titres des Terres du Couchant, mais également Maya Brick, qui a publié Ménagerie, c'était le troisième de nos titres, et qui reviendra avec un autre titre à l'automne. Et nous accueillerons aussi un nouvel auteur pour notre maison, mais qui est déjà un auteur qui a un joli parcours, puisqu'il a publié une trentaine de romans et de récits. Il s'agit d'Alain Emery, qui est un auteur breton. Et on va publier un court texte. Et donc là, on tombe tout de suite. On renoue avec ce dont on parlait tout à l'heure, quoi, des textes assez singuliers, assez inhabituels. Et c'est une évocation d'anciens caporniers qui ont du mal à vivre une fois revenus à terre et qui en plus sont confrontés à la Seconde Guerre mondiale, au phénomène de délation, etc. et de collaboration. Et c'est une écriture fabuleuse. C'est un petit texte court, je le disais.
Dites-nous, lisez-nous comment vous le présentez.
Alors, la présentation qu'on va utiliser en quatrième de couverture, c'est tout simplement l'incipit du texte.
Oui.
Vous voulez que je vous lise ?
S'il vous plaît, oui.
Si je fermais les yeux à cet instant, je le verrais au cœur de cette nuit chaude et venteuse de juillet, debout dans la buanderie, passant avec soin ses mains sous l'eau froide, s'attardant sur ses doigts, sur leurs jointures écorchées. Si je fermais les yeux, je le verrais dans cette pénombre confuse, mâchoire serrée sur une douleur qu'à 11 ans, je pressens mêlée d'une fureur sans égale, tandis que sur l'émail blanc de l'évier coule un peu de sang, quelques filaments et volutes rougeâtres qui disparaissent à mesure dans la bonde. Oui, je le verrai, défiant mon regard tendre et désemparé, plongeant ses yeux, dont j'écrirai un jour qu'ils avaient la couleur d'un bronze florentin, la patine d'or sous le bleu carnassier, ses yeux de père dans les miens, son seul fils, paraissant y chercher ce qui ne s'y trouverait que des années plus tard.
Et donc, le roman s'appelle Orne.
Orne.
Et il est de...
Alain Emery.
Et il sortira...
Il paraîtra début mars.
Je suis impatient d'en connaître la suite. Écoutez, je vous remercie, Marc Nagels, d'avoir fait le déplacement. Je suis vraiment enchanté de vous avoir rencontré.
Merci à vous.
Je vous souhaite un bon retour. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.
À très bientôt. Au revoir.
J'espère que lors de votre prochaine visite chez votre libraire préféré, vous rechercherez les jolis livres de Terre de Couchant. Et je suis sûr que vous céderez à la pulsion d'achat. Et si votre libraire n'en a pas, demandez-lui de les commander. Vous écoutez Radio G, c'est sur le 101.5, et maintenant c'est le moment transgression. Je vous donne la possibilité de faire voler en éclats tous les confinements et tous les couvre-feux. Aux orties votre masque, mais pendant juste 2 minutes. Installez-vous confortablement. Vous allez faire un voyage de plus de 3500 km. Vous êtes aux confins de la Turquie, peut-être dans un petit village. Au loin, le désert. Une voix s'élève. Fermez les yeux.
Farmaz aman aklı gözüm yaşı da gene kurmaz oy 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 aman benim hükmümde gene bu ellerde sana yürümez ay ay benim hükmümde bu ellerde sana yürümez vay baba yürümez oy 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 aman kaçtı gitti de göremedim boyunu kendi küçük de bilemedim huyunu yor 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 uy uy felek uy 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 la 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 la
Vous venez d'écouter Farimaz, chanté par Özlem Taner. C'est extrait du triple album Les Rives de Titi Robin. Y a-t-il une autre radio qui peut vous offrir un tel voyage ? Vous êtes bien sur Radio G, vous écoutez Entre les pages, l'émission qui parle du monde des livres en Anjou. Retour en juillet 2023, Julien nous a livré sa dernière chronique noire rétro. Il nous emmène aux Pays-Bas à la rencontre de Jan Willem van de Wettering.
Noir rétro, la mémoire du polar. Aujourd'hui, pour cette dernière chronique en mode noir rétro de la saison, je ne pouvais pas ne pas vous parler de la collection Rivage Noir, fondée par François Guérif en 1986. Alors, je sais, je suis censé parler de collections du passé, mais à l'instar de la série noire et du masque, nombre de collections ont évolué à travers le temps. Et en ce qui concerne la collection Rivage Noir, l'évolution la plus marquante s'est opérée avec le départ de François Guérif aux alentours du numéro 1000. Peu après, Rivage Thriller, qui était la grande sœur version grand format de Rivage Noir, a également été rebaptisé Rivage Noir ou parfois Rivage Police, ajoutant à la confusion. Enfin, l'arrêt du carton de couverture avec son grain caractéristique, qu'il avait fait unique en son genre peu après, ajoute à cette idée d'une seconde vie chez la collection. Pour être le plus précis, j'ajouterai qu'en 1988, François Guérif avait lancé Rivage Mystère avec l'aide du réalisateur Claude Chabrol, qui s'était arrêté très vite car allant trop loin dans l'idée de classification des genres, à l'instar de la série Émeraude du Masque ou de la série Blême des éditions Gallimard. Ici, les ouvrages sont au format 11 x 18, avec une couverture souple qui s'appuie sur un visuel fort et deux cartons superposés mettant en avant le titre de l'ouvrage ainsi que l'auteur. Énième résurrection de François Guérif, cette collection est amenée à durer. Et si elle commence avec des auteurs que l'éditeur a déjà publiés, David Goodis, Jim Thompson, Joanna Aiken, la collection, très inspirée par les États-Unis, va très vite trouver une double niche. D'abord, l'édition ou la réédition d'auteurs oubliés de Charles Williams à Mildred Davis. Ensuite, la découverte d'auteurs majeurs contemporains. En premier lieu, évidemment, James Ellroy, Denise Lehane, James Lee Burke, Donald Westlake, Elmore Leonard. Arrêtons-nous là, la coupe est pleine. Mais si j'étais honnête, je rajouterai des auteurs français, d'Hugh Pagan à Hervé Lecor, en faisant un petit détour vers Claude Amos et Pascal Dessin, tout en notant que certains auteurs méconnus français qui y ont été publiés valent tous le détour. Je me suis arrêté, pour ma part, au numéro 5 de la collection, l'un des premiers quoi. L'auteur est un certain Jan Willem van de Wettering. Il détonne car c'est le plus américain des Néerlandais, puisque natif de Rotterdam et installé dans l'état du Maine jusqu'en 2008, année de sa mort. Amateur de spiritisme, d'ésotérisme, aussi talentueux que farfelu, Jan Willem van de Wettering, dans « Comme un rat mort », propose une enquête mettant en scène son duo d'enquêteurs d'Amsterdam, Gripstra et De Geer. Dans cette dixième aventure, la première publiée, les autres le seront à rebours, les flics partent enquêter dans la Frise après avoir découvert le corps calciné d'un homme flottant sur une barque dans le port. L'enquête apparaît folle dingue, mais tout est magnifiquement planifié. On s'amuse des réflexions des locaux sur les flics d'Amsterdam. Surtout qu'a priori, il n'est pas facile de s'orienter sans carte. On découvre les rapports hommes-femmes avec une certaine modernité d'esprit. Les dialogues sont caustiques à souhait. Il y a des digressions sur le besoin de faire à manger, sur les relations sexuelles, sur la corruption de la police, sur la vitesse des voitures, sur le peu de moyens des uns et des autres, et sur la violence conjugale. Et puis, il y a le nœud gordien de l'intrigue avec une guerre des triades sur fond de stupéfiants. Le tout avec comme acolyte un rat qui va mourir et qui donne sa silhouette au titre. Surnommé le Simenon hollandais, Jan Willem van de Wettering dresse un portrait exceptionnel d'un pays à deux vitesses entre sa capitale et la province. Et l'on quitte ce volume numéro 5 en se disant qu'il faut vite entamer le suivant, ce qui est plutôt bon signe. Bonne lecture et surtout, Bonnes vacances.
Eh bien, merci Julien pour cette chronique et pour cette saison. Il se murmure que la saison prochaine, tu nous emmènerais vers l'ouest, voir s'il y a du nouveau. Ça, c'est du teasing. Petit moment lecture maintenant. C'est vrai, pendant cette période, dans Entre les pages, il y avait une rubrique lecture. Ce 17 février 2021, on faisait dans le classique de l'Anjou, le grand, le vrai, Hervé Bazin, La mort du petit cheval. Vous souveniez-vous qu'il était aussi acerbe, aussi méchant? Cette lecture se faisait dans le cadre d'un partenariat que l'émission avait avec la compagnie Les Amis de l'ABC, pilotée par Simon Loretti. C'est Paul Moxion qui est maintenant au micro.
Hervé Bazin, La mort du petit cheval. Cette sagesse morne est une attente. Ma retraite se prolonge, volontaire cette fois. Il s'agit de savoir ce que je veux et ce que je peux. S'il ne tenait qu'à moi, j'irais séance tenante revendre chez un bouquiniste mes manuels de droit. Je prendrais le train pour Paris, j'essaierais de me faire embaucher quelque part. Mais l'aventure ressemblerait beaucoup trop à une fugue. Essayons de tenir un an. Voilà qui me permettrait d'enlever un premier certificat de licence S-lettres. Et pourquoi pas tenir 3 ans? Après tout, j'aurai la licence désirée et celle que veut mon père par-dessus le marché. Oui, mais 3 ans, quel siècle à mon âge! Il m'est pénible de devoir mes études à la fortune des miens. Certes, je ne suis pas assez sot pour regretter l'instruction qu'ils m'ont donnée. Mais maintenant que je parviens à l'âge d'homme, j'aimerais me devoir le reste. J'ai toujours jalousé les boursiers, à qui nul ne peut dire « Vous avez eu de la chance d'être un fils à papa ». J'envie les dispensés de cours, qui travaillent chez quelques notaires et potassent toute la nuit. Non que j'aime jouer la difficulté, j'ai seulement horreur de la mentalité de ces petits séminaristes qui simulent une vocation sacerdotale pour se faire offrir le collège et s'esbignent le lendemain du bachot. Leur mauvaise conscience sera demain la mienne. L'abomination de la désolation, ce n'est pas d'être un transfuge, ni même un ingrat, tout le monde l'est plus ou moins. L'abomination, c'est d'être un faux homme nouveau. On peut tromper les gens, on ne se trompe pas soi-même. Ceux qui prétendent le contraire ont sans doute la chance de pouvoir domestiquer leur orgueil. Moi, pas. C'est pourquoi cet orgueil s'irrite. Interminable jeunesse. Pourquoi faut-il si longtemps exister avant de vivre, demander avant de prendre, recevoir avant de donner? Décembre, trop doux cette année. Laisse le ciel, cette grande cuve, passer au bleu les torchons gris de ses nuages. Sur le gravier rose s'alignent les marronniers nus, dont les feuilles sont depuis longtemps tombées, ratissées. L'une d'elles, qui ressemble à une main à 7 doigts, est restée accrochée à l'épaule d'une statue. Exploite cette chance, palpe le marbre. Cette désinvolture est une leçon, et ma propre main se crispe sur mon genou. Sur le gravier rose, il y a aussi des tas d'enfants, de jolis enfants, un peu bêtes, un peu doux et frisés, affligés d'une peau étonnante, trop fraîche, trop mince, une peau de dessous qui ne doit pas supporter les coups. Je le pensais bien, je n'ai jamais été enfant. Dans le bassin, une douzaine de voiliers évoluent, se couchent, rétifs à la ficelle. Et voilà des cris. Une vague goélette s'est laissée aborder par un croiseur mécanique qui lui a brisé son bout de dehors. Pourquoi pleurniche-t-il, le petit armateur? Pourquoi réclame-t-il? En lançant sa coquille de noix sur l'eau farcie de poissons rouges, il prenait ses risques. On ne réclame pas contre soi-même. On ne triche pas avec soi-même. Et c'est pourquoi tu files, mon garçon. Tu triches? Tu files, parce qu'au détour d'une allée, là-bas, remorquant vivement 2 bambines, vient d'apparaître une jeune fille. Miku. Miku, cette goélette dont tu te figures qu'elle pourrait couler ton cuirassé.
Et voilà, Entre les pages se terminait sur cette lecture d'un extrait de La mort du petit cheval d'Hervé Bazin, faite par Paul Mauxion, membre de la compagnie Les Amis de l'ABC. Marc Nagels continue en toute discrétion son travail d'éditeur. Je tiens à signaler le dernier livre des éditions Terre du Couchant, paru au mois de novembre 2022, Quatre rivières, de Alain Emery. Au cours de l'émission, vous avez entendu Niobe et Christophe Belleuil qui ont chanté « J'ai marché » et cet extrait de l'album de Niobe intitulé « Numéro 6 ». Farimaz, chanté par la magnifique chanteuse turque Özlem Taner, et cet extrait du triple album de Titi Robin, « Les Rives ». Et Julien Védrenne, notre journaliste ingrandais, vous a fait faire un tour aux Pays-Bas avec le roman de Jan Willem van de Wettering, « Comme un rat mort ». Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les Pages, sur le site de Radio G, à la date de l'émission. Notre prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 19 juillet à 17h. Je vous invite à une rencontre avec Sophie Tessier et Marlène Tissot, deux autrices en résidence à la maison Julien Gracq. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI. Je vous souhaite une excellente soirée. Et maintenant...
In 500 meters, go straight, and then go straight.
Générique. To me.
105.5 FM.
Numéro WhatsApp 33.